bonsoir, good evening, bienvenue sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland. Alors, ce soir, nous avons un guest d'honneur qui est de retour parmi nous, Elisabeth.
Bonsoir.
Bonsoir pour Elisabeth. Else.
Bonsoir.
On est contente de te voir aussi.
Hein, merci.
Tu es là plus souvent maintenant. Et à la technique, on a Stéphane.
Bonsoir.
Et moi-même à l'animation, Fred. Alors, les petites annonces. Ne ratez pas samedi prochain, nous sommes deux corvées, mais avec le plaisir.
C'est pas une corvée.
Non, c'est pas une corvée.
Nous invitons tous nos amis de la radio samedi prochain.
Voilà, au petit déjeuner de l'Alliance française, à Grey Street, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, on va faire un quiz, on va vendre des livres français, on va vendre de la pâtisserie.
Des bonnes choses à manger.
Voilà, on va vous entertainer, comme on dit en anglais, parce que je ne trouve plus le... On va vous amuser.
Vous divertir.
Vous divertir. Voilà, on va vous divertir au petit déjeuner. Donc le 23 à partir de 10h. Voilà, avec des bons petits pains et plein de culture française et tout ça en français. Donc venez nombreux.
C'est un samedi, hein, c'est ça ?
C'est un samedi, à 10h, à Grey Street.
Du matin.
Voilà, pas à 10h du soir.
C'est un petit déjeuner,
avec vos
c'est
enfants,
le matin.
Avec vos grands-parents, avec vos frères, vos sœurs, vos copains, tout le monde.
C'est pour financer la radio pour les 3 prochaines années, si tout va bien, quoi.
Voilà. Et alors, un autre événement, c'est le 26 juin, et ça s'appelle Women in Leadership, Women Leadership in Science and Industry. C'est un événement public, et en fait, un des 3 speakers, ce sera moi. Donc, mais il y a surtout 2 autres speakers qui sont un petit peu plus leader, je vais dire. Donc, Margaret Brimble et Charlotte Walls. C'est un événement public le 26 juin de 6h à 7h30 du soir dans le building Owen Glen. Donc, c'est le grand building.
T'as pas précisé que c'était à l'université?
C'est à l'université d'Auckland. Donc, le grand building qui a été construit il y a pas si longtemps entre
la business school.
Voilà, la business school. Entre l'autoroute et l'université, plus ou moins.
Tu dois un peu préciser où c'est dans Owen Glen, hein, parce qu'il y a 10 étages.
C'est OGGB3. Donc, c'est au sous-sol.
Dans le basement.
C'est le grand auditoire au bout du... Mais il y aura des flèches, ne vous inquiétez pas.
Et puis, c'est très facile de se garer. Hein.
Oui.
Il y a un grand parking en dessous d'OGG.
Voilà.
L'entrée du parking est dans la rue qui s'appelle...
Il y a un petit truc qui descend, là.
Un petit truc qui descend, là, ouais.
C'est Park ? Non.
Non.
Park,
non.
C'est Grafton. C'est Grafton Road.
Déjà Grafton, du coup ?
Ouais, c'est Grafton Road. Voilà. Bon, Donc, ça, c'est les petites annonces. Et puis, après ça, nous allons demander à Elisabeth ce qu'elle a fait depuis qu'elle nous a quittés. Et en attendant, on va écouter un peu de musique, monsieur.
Attends, je cherche la rue.
Steph, il nous faut de la musique.
Mais oui, mais je cherche la rue. C'est quand même.
C'est Grafton Road. Mets-nous de la musique.
Je ne suis pas du tout convaincu que c'est Grafton Road, moi.
C'est
Grafton Road, c'est bien ça.
Voilà,
très bien. Merci.
Alors, musique.
Alors, c'était Hier encore de Brigitte. J'ai découvert ça. Ouh, c'est quoi ça? C'était pas ça. Attendez, voilà, c'est parti.
Tu m'as fait là, tout seul, tu abandonnes mes pleurs.
Donc c'était...
C'était Hier encore, de Brigitte.
D'accord.
Je ne sais pas qui est Brigitte. Mais...
Ouais. C'est pas une Belge ?
Écoute, j'en sais rien.
On va faire une enquête et on vous mettra tout ça sur Twitter. Parce que maintenant, nous n'avons plus de blog, nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram.
C'est très efficace.
Si vous voulez nous suivre, vous... Voilà. Et comme ça, vous pérécutez les émissions tant que vous voulez. Alors, Elisabeth, raconte-nous. Tu nous as quittés, abandonnés. T'es partie où ? T'as fait quoi ?
Bon, je suis partie, donc, il y a exactement... Il y a exactement un an, je descendais à Wellington faire un briefing avec VSA. Donc, je vais vous parler déjà un petit peu de VSA, Volunteer Service Abroad. C'est donc une ONG néo-zélandaise, la plus ancienne, tout à fait séculaire, donc pas politique, pas d'église, et qui fait du travail de développement, essentiellement maintenant dans le Pacifique. Donc, j'avais été sélectionnée.
Et donc, c'est néo-zélandais ?
C'est néo-zélandais. Donc, c'est pour les néo-zélandais, pour les résidents et les néo-zélandais.
Tu as été sélectionnée sur... Qu'est-ce qu'on t'a...
C'est-à-dire que j'avais déjà fait une mission avec VSA il y a quelques 15 ans, de 2 ans en Afrique du Sud. Et puis, c'est quelque chose que je voulais toujours refaire, avant d'être trop vieille. Et puis là...
L'âge as-tu, dans le fond.
On ne demande pas l'âge d'une femme.
Je ne révèle pas. Et puis, donc, j'ai vu, donc je regardais toujours sur le site. Donc, je vous conseille de regarder sur le site, si ça vous dit, de faire du travail de bénévole.
Avec 3 enfants, c'est un peu difficile.
Oui, ça, c'est sûr.
Ils font des soirées d'information. C'est comme ça que nous, on sait qu'on doit attendre que nos enfants s'en aillent.
C'est ça, il n'y a plus...
Et là, ce soir, on est prêts.
Je regardais donc je regardais régulièrement sur le site. Et puis, l'âge de la retraite arrivant, un dernier petit challenge à faire. Et puis, je vois qu'il y avait une mission de 6 mois seulement aux îles Salomon. J'ai m'étais toujours dit les îles Salomon, j'ai rien contre, mais bien trop chaud, c'est pas pour moi. Mais finalement, je me suis dit 6 mois, je devrais pouvoir y arriver. Et puis c'était un petit projet dans le tourisme et de gestion et d'amélioration d'une structure hôtelière. Enfin, hôtelière, c'est un grand mot.
Mais tu avais déjà fait, c'était aussi en rapport avec le tourisme.
Oui, parce qu'avant de travailler à l'Université d'Otago, j'ai quand même travaillé 17 ans dans le tourisme, donc j'ai quand même une espèce de compétence dans ce domaine-là.
Mais ton autre mission VSA, c'était aussi...
Oui, l'autre mission, c'était ça, c'était travailler avec en Afrique du Sud, c'était donc 2 ans à travailler avec des collectivités locales, à développer une maison d'hôtes dans un village et un chemin de randonnée guidé. Donc... À l'époque, je trouvais que c'était, ça avait été assez difficile, mais avec des bons résultats. C'était les 10 ans de la démocratie et il y avait encore un enthousiasme fantastique en Afrique du Sud. Donc, c'était bien dur, mais bien. Là, les îles Salomon, c'était un petit peu différent parce que seulement 6 mois. 6 mois, c'est vraiment trop court. Là, ça c'est quelque chose de certain. Mais je m'étais dit, si c'est une structure hôtelière qui existe déjà, de l'améliorer, lui donner un petit peu d'un standard correct pour les touristes, parce qu'ils, bien sûr, ils veulent développer le tourisme. Donc, je suis sélectionnée. Donc, je fais mes 3 jours de briefing à Wellington. Et le 22 août, je pars aux îles Salomon. J'arrive à Honiara, la capitale, qui est sur l'île de Guadalcanal.
Tu avais déjà été avant ou
non, jamais été aux îles Salomon.
Donc
non.
La première impression, c'était quoi? Wow,
j'avais quand même lu beaucoup sur les îles Salomon, autant que je puisse.
Et tu pars avec 23 kilos de bagages ou t'as
23 kilos, mais on pouvait emmener un extra parce que donc voilà.
Ah
donc,
d'accord.
Mais bon, t'as besoin de grand chose là-bas quand même.
Non. Tu n'as pas besoin de gros pulls.
Non, pas du tout. Et donc, j'arrive donc à Honiara, donc la capitale. Alors ça, c'est pas vraiment une ville très, 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 très touristique, si je puis dire. Ce qui nous frappe tout de suite, c'est les ordures partout, les sacs plastiques, tout est par
donc,
terre.
Donc, il n'y a pas d'effet waouh quand tu arrives, en fait.
Non, pas du tout. Certainement pas à Honiara. Non, absolument pas.
Il y a combien de la population et se monte à combien?
La population en tout de toutes les îles Salomon, c'est un peu moins d'un million. C'est dans les 600 D'accord. 000, quelque chose comme ça, mais ouais. 600, 700 000. Mais c'est à peu près donc c'est à peu près. Enfin, il y a pas loin de 1000 petites îles. Il y en a 9 grandes. Et donc 11 provinces, et donc il y a tout un problème quand même de communication, de transport, etc., d'infrastructure, ouais. C'est pas évident. Donc on a passé une semaine à Honiara, parce que c'est vrai que VSA, donc cette ONG, s'occupe très bien des volontaires. Une fois qu'on est sélectionné, qu'on a fait le briefing, une fois qu'on part...
Ouais,
alors je rappelle aussi que c'est pas du volontourisme, qui devient un vrai poison dans le pays en voie de développement, mais c'est vraiment en réponse à une demande des organisations locales. Donc
mais
c'est
que
pas
tu entends par volontourisme.
Le volontourisme, c'est les gens qui payent, qui s'en vont en Thaïlande et qui payent à prix fort pendant une semaine pour aller soi-disant ou dans un orphelinat ou enseigner l'anglais, mais c'est des gens qui ne sont pas sélectionnés, qui ont de la bonne volonté, certainement, et qui veulent faire le bien. Mais ça, ce n'est pas du développement.
D'accord. Ouais. Tandis que c'est des projets de moins...
Ça, c'est des projets de développement économique qui sont basés sur des critères très, très stricts des nouveaux goals de développement. Et donc, c'est en réponse aux demandes du pays, donc là, des îles Salomon et particulièrement de Malaita. Donc, après une semaine à Honiara d'introduction. On a passé 2 jours dans un village pour avoir un contact avec la culture. On a eu des cours de pidgin. Les pidgin, c'est donc l'anglais un peu abîmé qu'ils parlent.
Ils parlent anglais là-bas.
Ben oui, ça a été colonisé par les Allemands, mais après par les Anglais, donc jusqu'en 78. Donc,
c'est-à-dire que les Allemands ont dû le donner aux Anglais après une des deux guerres, c'est ça?
Oui, je ne suis pas tout à fait sûre de toute l'histoire, mais voilà. Donc, mais indépendance en 78, et donc, oui, et donc, il y a énormément de langues locales. Et puis le pidgin, et puis l'anglais éventuellement. Ouais. Donc le pidgin, c'est un anglais un peu abîmé, quoi. Enfin, un anglais amélioré, arrangé.
On a pas un exemple de pidgin?
Good evening, friends Blomy. How are you?
C'est quoi, ça veut dire quoi le friends Blomy?
Friends, mes amis, les friends Blomy, Blanc Me. Mais les amis qui m'appartiennent, enfin, à moi,
Blanc.
Ils se mettent Blanc. Partout. C'est assez intéressant. Bon, voilà.
Je dois dire que pour revenir, nous, on avait été à une soirée d'information de VSA et il y avait eu 4-5 personnes qui avaient expliqué leur expérience. Et c'est vrai qu'ils avaient tous bien dit qu'ils avaient été le plus possible, qu'on s'était occupé d'eux, surtout pour les intégrer et pour leur...
Ah ouais, c'est très bien pour ça. Puis il n'y a pas une fois qu'on est sur le terrain, c'est à nous, on est assez adultes pour se débrouiller, c'est évident. Mais on a un bon soutien logistique, s'il y a quoi que ce soit comme problème. On a aussi à faire des rapports personnels et plus techniques régulièrement et à être en relation avec VSS s'il y a quelque chose qui se passe.
Une fois qu'ils t'ont introduit, une fois qu'ils t'ont placé là... Et t'es toute seule, quoi.
Ouais, mais bon.
Tu te débrouilles. Enfin, t'as un but et tu te débrouilles.
C'est pour ça aussi, ils essaient de sélectionner des gens qui peuvent survivre, se débrouiller.
On te donne un budget ou...
Pardon?
On te donne un budget?
Non. Il n'y a pas d'argent. Non, c'est-à-dire que VSF paye pour le voyage, pour ton assurance, tous les soins médicaux nécessaires avant de partir. Et on te donne une petite allowance pour acheter ta nourriture. Et tu es logé, et tu achètes ta nourriture. Bon, mais tu n'as pas de... Non, tu n'as pas de budget.
Pour mener les projets, il faut que tu...
Non, mais tu... Justement, non. Ça, c'est les projets. Les projets, toi, tu arrives avec tes compétences. Tu n'as arrive pas avec de l'argent, parce que l'argent, ça sert à rien dans le développement. L'argent, ça part dans les poches.
Ouais.
Et c'est pas ça qu'il faut. On apprend à quelqu'un, si on lui donne un poisson, il va manger pendant un jour. Si on lui apprend à pêcher, il pourra se débrouiller plus longtemps,
ouais.
En principe. C'est ça le. Ouais.
Mais donc, il n'y a même pas un tout petit budget pour acheter le matériel ou
pour acheter si vous voulez, chaque projet est vraiment différent. Il y a des choses complètement différentes. C'est mis en place en amont entre l'organisation qui va nous recevoir et qui a besoin de quelqu'un spécifiquement. Et c'est surtout un échange de compétences plutôt. Parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, par exemple, moi, j'étais donc sur cette structure hôtelière où il y avait 10 chambres, un restaurant, un bar. Il fallait améliorer la gestion. Il y avait tout à faire, quoi. La gestion, le standard, etc. Ouais. Voilà. Et puis devenir quelque chose. Et puis être capable d'accueillir les touristes.
Et donc, c'était sur quelle île?
Alors là, je suis partie sur l'île de Malaita, qui était. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette. Enfin, j'ai soumis ma application parce que j'aurais pas allez, $1
poser ma candidature
voilà, parce que en effet j'avais déjà lu beaucoup sur Honiara, ça m'aurait pas tellement plu d'être sur Honiara, mais Malaita, c'était la première fois qu'il y avait des volontaires sur l'île de Malaita, des volontaires néo-zélandais, donc c'est une île qui est à peu près à 20 minutes en avion. Et quel avion, ou bien quelques heures, 4-5 heures en bateau.
Ah oui, c'était mon autre question. Donc, il y a quand même quelques avions entre.
Oui, il y a un avion tous les jours qui va sur Malaita, mais alors il faut voir l'avion. C'est un petit coucou qui tombe en morceaux. Tu rentres là-dedans, tu dis oh là là, il faudrait du scotch pour tenir tout ensemble. Mais enfin, on y arrive quand même. Et puis on arrive.
Il n'y a pas de porte dans le cockpit.
Ouais, c'est vraiment. Il y a 15 ou 20 places et tout. C'est vraiment très, très basique. Et on arrive sur un pré et il y a un village tout autour, donc le gars qui est le correspondant pour le salon de Monarelland siffle bien fort pour que tous les gamins dégagent et que les vaches, enfin il n'y a pas beaucoup de vaches, il n'y a qu'une vache là qui traîne, et puis tous les bagages sont pour le vol parce qu'ils font un turnover assez rapide, donc tous les bagages des gens qui vont repartir de Malaita sont arrivés là au milieu du pré. Et puis, donc on arrive, on descend, on prend nos bagages, et puis les autres rentrent dans l'avion, et puis ils repartent. Enfin, c'est. Voilà.
Mais alors là. Il faut juste faire attention de ne pas poser ta valise sur une bouse de vache, quoi.
Non, mais il y a très peu de bovins là-bas, de toute façon. Et donc, c'est vrai que c'était assez enchanteur arriver à Malaita. C'est vraiment les îles tropicales, la verdure, les arbres, les gens sont magnifiques. Les enfants sont très beaux, en dépit de la pauvreté, etc. C'est vraiment. Ils sont très accueillants. Ils sont très gentils. Il fait évidemment très très chaud. Et c'est vrai que c'était magique d'arriver là. Des petits villages traditionnels, des cases en bambou. Enfin, c'était très beau. J'étais vraiment ravie d'arriver là. Et puis donc, je suis arrivée dans ce Aoki Lodge. Alors, la capitale de l'île de Malaita, c'est Aoki, A-U-K-I. Et donc, je suis arrivée là et j'ai passé 6 mois à essayer d'améliorer le standard de ce complexe hôtelier. Et j'avais aussi un des objectifs, c'était d'éventuellement travailler avec d'autres touristes, tour opérateurs, sur un bien grand mot, parce que le tourisme n'est pas tout à fait développé. À Aoki Lodge, on a dû avoir 20 touristes en 6 mois, quoi. De vrais touristes. Alors, quand même, beaucoup de trafic, parce qu'il y a toutes les ONG, tous les ministères, toutes les organisations qui viennent faire des séminaires, etc., qui restent là. Et donc, c'était le premier hôtel, si on peut dire, qui a été construit sur l'île de Malaita en 1961, par là. Et donc, ils ont tout un héritage, ils sont connus, mais bon, c'est un lieu qui était, c'est bien placé, c'était sympa, un très beau jardin et tout, mais. Ouh là là, il y avait beaucoup à faire.
Qu'est-ce qu'il fallait faire en priorité?
Il y avait tout à faire. Alors, ce qu'il fallait, c'était essayer de voir. J'avais que 6 mois, donc il fallait voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait à faire. Donc, premier jour.
Ils prolongent jamais les missions?
Si, alors là, bien sûr, tout le monde s'est mis à genoux pour que je reste, mais moi, je dois dire que je ne voulais pas rester.
Non.
Donc, non. Pour différentes raisons, mais. Première chose à faire.
Tu serais prête à repartir maintenant?
Je suis pas sûre, parce que quand même, c'est assez éprouvant physiquement, la chaleur, pas que la chaleur, mais aussi, disons, mentalement, c'est assez difficile parce que la corruption est terrible. Alors pas au niveau des gens qui habitent à Malaita, mais au niveau du gouvernement, enfin, bon, j'en parle avec discrétion, mais quand même, c'est bien connu, la corruption, parce que les millions de dollars qui sont versés aux îles Salomon, ben, l'effet de ruissellement n'est pas très, très effectif. Je vois, par exemple, sur l'île de Malaita, au niveau du tourisme, alors j'ai travaillé un petit peu avec le conseiller du tourisme sur l'île de Malaita, qui était dans son bureau avec... il s'était acheté un ordinateur, mais il n'avait pas Internet. Il avait son téléphone. C'est tout ce qu'il avait. Il n'avait jamais... Alors, il avait absolument... aucun moyen pour aller voir d'autres endroits ou de faire des ateliers ou faire quoi que ce soit avec les gens qui voulaient un petit peu proposer
c'est
une activité touristique.
C'est souvent le problème des pays en voie de développement.
Ben oui, voilà, c'est pour ça que le développement, je révise aussi un petit peu ma position par rapport à ça. Donc, mais les gens voulaient que je sois là, donc je suis venue. Donc
ta première mission, t'as fait quoi?
Pardon?
Quand tu es dans cette
Le premier jour, c'était de regarder le système de réservation. Alors, déjà, de mettre ça au point. Les comptes n'ont jamais été faits pendant des années. Donc, les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils gagnaient.
Et de ce qu'ils dépensaient. Enfin,
parce que l'argent arrivait soit par cash, c'était dans le tiroir, ça partait à la banque. Et puis, donc c'était absolument aucun système de gestion. Donc ça, j'essaie de mettre un peu ça au point, mais bon, il y a d'autres problèmes par rapport à ça dont je ne veux pas parler parce que il y a une clause de privacy dont je ne veux pas trop parler sur les ondes. Et puis le deuxième jour, j'ai travaillé avec les deux femmes qui faisaient le nettoyage. Alors là, les chambres n'étaient pas trop mal, mais alors nettoyage, elles n'avaient rien pour nettoyer, un petit bout de chiffon de cette taille, gris.
Donc qui de cette taille, c'est à peu près 20
oui,
sur 30, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Gris, qui servait pour tout, les toilettes, tout. Alors que c'est des chambres quand même avec l'air conditionné qui sont tombées en panne, avec un fan, avec un frigo. Les frigos n'ont jamais été nettoyés, jamais révisés, donc ils étaient tous plus ou moins bancals et ils fuyaient. Des salles de bain quand même avec une douche, WC, toilette, mais tout était un peu bancal, la moitié des choses cassées, etc. Et puis alors, le nettoyage. Donc la première chose à faire, c'était gentiment d'expliquer que peut-être comme ils avaient demandé que je sois là pour améliorer le standard, donc on allait donc trouver des chiffons, ça c'était la première chose. Donc on a trouvé des vieux draps qu'on a coupés et puis parce que le seul produit pour nettoyer, c'était de la poudre à laver la lessive qu'ils avaient et puis qu'ils ont secoué un petit peu puis ils allaient avec les mains comme ça quoi, c'est tout. Donc j'ai dit bon, là on va d'abord, déjà dit c'est pour vous, c'est dangereux, donc j'avais amené un peu de matériel de nettoyage et puis on a trouvé du vinaigre blanc chez le chinois et puis du coin et puis on a commencé à mettre en place un système de nettoyage.
C'est pas qui chez eux, c'est le chinois.
Oui, ça c'est un autre problème aussi. Et donc nettoyage, ça c'était le grand succès, je dois dire, de mes 6 mois là-bas, c'est que les deux filles qui faisaient le nettoyage étaient super, celles qui bossaient le plus, elles faisaient un travail fantastique, elles bossaient dur parce que quand il y avait 10 chambres à faire avec la chaleur qu'ils faisaient, c'était pas évident. Donc
mais il y avait des gens qui logeaient dans ces chambres.
L'occupancy c'était plus de 50%, mais parce que comme je disais, c'était surtout des ONG qui venaient de Honiara parce que le développement, donc tous les gens qui faisaient des séminaires, des trucs de training, qui venaient visiter.
Ouais, donc c'était pas des touristes.
C'est pas des vrais touristes, parce que les vrais touristes qui étaient un petit peu baroudeurs, ils trouvaient que c'était un peu trop cher pour eux aussi, parce que c'est vrai que le prix de la nuitée était quand même assez haut.
Il y avait un restaurant aussi.
Alors il y avait un restaurant qui était géré par une autre famille, et puis c'était le seul restaurant qu'il y avait là-bas, donc c'était pas trop mal. Mais enfin bon, la cuisine, alors là aussi j'ai été voir la cuisine. Le deuxième jour, j'ai vu un gros rat qui a traversé dans la taille de bon, le frigo qui n'avait jamais
clavier,
été là,
elle a bien
nettoyé.
Montré,
enfin c'était, mais bon, on a réussi à faire du travail aussi là. Ouais.
On peut mettre un tout petit peu de musique comme
oui,
ça.
Oui, je vais peut-être m'arrêter. Oui, on va écouter. Bah, on va écouter Sylas.
On continue après, hein, mais ça.
Oui, d'accord. Ouais, on écoute Sylas. Non, on écoute la musique traditionnelle, c'est ça?
Malaita Bamboo Band.
Voilà. Thank you.
musique traditionnelle.
Musique traditionnelle, oui. Alors, bon, à part la lodge, j'ai quand même eu la chance, comme je disais, de travailler avec d'autres gens qui étaient dans le tourisme, dont un guide, Silas Malai, et je lui rends hommage, un type absolument fantastique, qui est vraiment lui. Alors, il savait ce que c'était que le tourisme, mais il était très velléitaire, et j'ai travaillé avec lui, j'ai fait des choses assez... On a fait des expéditions assez fantastiques, ça, c'était très, très bien. J'ai aussi eu la chance d'aller dans
quel genre d'expédition
par exemple, il y avait un tout petit bateau de croisière qui arrivait sur l'est de l'île et il fallait inspecter un nouveau site d'observation des oiseaux, bird watching site. Donc on est parti, même chose, le conseiller touristique de la région qui en principe aurait dû faire ce travail n'a pas eu de moyens pour le faire, donc éventuellement je suis partie à sa place. Donc moi j'ai payé ma place dans le camion, donc 50 km, 4-5 heures de route.
Ah ouais.
Les grandes comment, Lynn?
Les grandes, à peu près...
Elle fait au moins 50 km.
Ouais, 60 km de large et à peu près de... maximum
Black Horse,
200 km de long, ouais, maximum.
Grand,
ouais. Des routes assez en très très mauvais état.
Et donc jours pour faire le tour de l'île, quoi, vu les routes.
Oh, tu peux pas faire le retour de l'île parce qu'il n'y a pas des routes partout, de toute façon. Ah, donc là, pour aller vers le sud, il faut aller à Honiara, prendre un bateau qui va de Honiara à l'île vers le sud. Enfin, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment encore.
À défricher.
Complètement, oui, oui. Donc, on est parti donc à l'est, et puis on a passé 3 jours dans la petite communauté. Là, c'était très très chouette. Et le bateau de croisière, c'est un tout petit bateau de 50 cabines, donc qui explorait un petit peu des lieux moins connus. Donc voilà, on a fait cette expédition. Puis une autre fois, j'ai eu la chance de monter dans le nord, donc même chose, 61 km, 4h30 de route.
15 km, donc, on peut presque le faire en courant.
Alors là, bravo, ouais, les chauffeurs de camions. Hein. Alors là, je ne sais pas comment ils font, mais bravo, hein, c'est vraiment des champions. Hein. Ils arrivent sur les routes, c'est bon. Et puis les camions sont absolument chargés, il y a juste la cabine devant, et puis derrière, c'est
les
sacs
de
riz. Oui, c'est surtout, c'est en ce moment la saison des pluies, oui.
Il y a beaucoup de gens en scooter?
Non, il n'y a pas de scooter, les gens marchent. Non, la pauvreté est vraiment,
Vu l'état des routes pour les camions et les scooters, c'est difficile.
Non, scooter, pas de scooter, pas de vélo, il y a peut-être 10 vélos ou tout cassé, quoi.
Il y a des voitures personnelles ou pas du tout?
Il y a quelques voitures personnelles, il y a pas mal de taxis, alors c'est des trucs complètement, c'est tout des 4x4, enfin des fonctions 4x4, mais alors tous bancales, des vitres cassées, etc. Donc bien sûr, on met jamais les ceintures de sécurité.
Des trucs qui n'ont pas passé le WAF ailleurs?
Ah ben non, ça certainement pas.
Les trucs qui passent pas le WAF ici, on les envoie là-bas.
Non, mais c'est complètement différent. Enfin, le niveau de pauvreté est énorme, quoi. Donc, c'est... Mais bon, quand on va dans les communautés, c'était assez fantastique parce qu'ils sont tellement en attente en désir de vouloir faire quelque chose. Et là, très brièvement, cette communauté où je suis allée, ils avaient construit un petit musée. Et malheureusement, ils voulaient développer une structure de tourisme et puis montrer leurs artefacts et leurs choses traditionnelles. Et en fait, il y a un cocotier qui est tombé, qui a tout écrasé. Donc, ils attendaient désespérément la visite du conseiller touristique de Lille, qui ne pouvait pas venir parce qu'il n'avait pas les moyens de venir. Donc, j'ai dit, moi, je veux bien venir à ta place. Donc, je suis partie en camion et puis j'ai passé 2 jours là-haut. J'ai eu une expérience absolument fantastique, à part que j'aurais bien voulu profiter de la mer et nager, mais bon, j'étais en visite.
Oui, tu nous disais tout à l'heure, tu n'as pas beaucoup nagé.
Non.
Tu n'as pas fait de tourisme, en fait.
Bah, oui et non, mais ouais. Donc, mais là, j'ai un souvenir. Alors, même chose, ils ont vraiment un lieu, c'est sûr que pour aller faire un tour là-haut, c'est fantastique. Mais bon, il leur faudrait beaucoup d'aide, qu'ils arrivent à garder leur authenticité, mais aussi à répondre au désir d'éventuels touristes. Donc, c'est quand même...
C'est toujours cet équilibre à trouver, ouais.
Ouais, c'est quand même assez compliqué, ouais.
J'imagine que les danses traditionnelles sont bien en avant aussi.
Oui, tout ça. Et alors, justement, pour finir, j'ai amené quelque chose. Alors, évidemment, on dit sur les ondes, mais vous pouvez décrire.
Il y a des touristes qui arrivent, là,
il y a quelques touristes qui arrive. Alors je vous ai apporté quelque chose. Ça c'est oups,
non, le pic fait pas partie.
Voilà, alors ça c'est les monnaies traditionnelles. de Malaita qui sont
ça ressemble à un grand collier africain.
Fred, tu peux mettre une photo sur Facebook?
Oui. Ah ben oui, je vais faire une photo. Voilà.
Alors c'est fait spécialement sur l'île de Malaita et encore plus spécifiquement dans la lagune de Langa Langa. Il n'y a que là que ça peut être fait. Et ça, c'est les monnaies traditionnelles qu'on voit un petit peu dans toutes les îles du Pacifique. Et chaque petit coquillage, hein, vous voyez, c'est géré à la main. Donc, les hommes vont chercher les coquillages dans la nuit. Après, les femmes les coupent en petits morceaux. Et puis, de temps en temps, ils leur changent de couleur en les mettant sur des plaques de cuivre, en les faisant chauffer, etc. Et après, ils les percent à la main. Bien sûr, ils n'ont pas l'électricité, donc c'est avec une perceuse ou avec un système de poulies. Enfin, ils font chaque petit trou. Et après, ils les enfilent sur des grands fils. Et puis, les hommes rabotent pour en faire des petits. Alors, vous imaginez le travail pour faire. Alors, ça, c'est un tout petit. Ça, c'est ce qu'ils appellent le shell money. Et c'est assez particulier et ça, c'est assez unique. Alors, ça, c'est un tout petit. Normalement, c'est à peu près 2 mètres de long et c'est deux fois la largeur. Et quand, par exemple, vous voulez trouver une femme pour votre fils, vous allez dans la famille et vous offrez une cinquantaine, enfin, entre 30 et 50 choses comme ça, mais comme je dis, beaucoup plus grandes.
Et ça se porte comment?
Ça vaut quelque chose. C'est ça la monnaie, c'est le tout.
C'est tout ça, oui.
Tout ça qui ressemble à une ceinture, d'ailleurs. En fait. Ouais. C'est, ouais. Enfin, moi, je dirais que c'est une ceinture, mais peut-être que je suis un peu une fashionista.
Non, c'est juste, alors on garde ça, et puis il y a des tas d'autres choses qui sont faites. Alors j'ai d'autres coquilles là aussi. Et donc aussi, c'est la monnaie pour les compensations. Parce que traditionnellement, si jamais vous... Il y a beaucoup de tribus différentes. Si jamais vous offensez quelqu'un, et on va vous demander une compensation. Et la compensation, ça sera de l'argent ou de la shell money. Donc, comme on appelle shell money. Donc, c'est parure. Donc, toutes les familles essayent d'avoir le plus possible de choses comme ça dans un petit panier chez eux, au cas où quelqu'un dans la famille fait une gaffe et ils doivent payer une compensation. Et puis, surtout, si on veut trouver une femme pour le fils. Donc,
alors,
voilà.
Quelles sont leurs croyances religieuses?
Alors là, les missionnaires de tous bords et de toutes sortes sont venus. Et donc, autant ils avaient leur croyances traditionnelles, les anglicans, tout le monde est là, toutes les religions sont là et ils sont très croyants, alors ça les aide peut-être à supporter leur pauvreté, ils sont très résilients, mais d'un autre côté, je trouve ça un petit peu dommage aussi, parce que ils s'en remettent, par exemple, à la lodge, un petit épisode, avant que je parte, il y a eu un vol d'argent, parce qu'ils mettaient dans le vieux tiroir, là, l'argent pour les écoles. Et puis, ils n'ont pas trouvé qui avait pris l'argent. Et ma foi, excusez-moi. Bon, après un jour ou deux, ils n'avaient toujours pas trouvé. Donc, ils sont allés voir le pasteur anglican. Ils lui ont payé une forte somme. Et puis, le pasteur allait prier allègrement. Et ils étaient sûrs que soit l'argent allait revenir, soit la personne allait se dénoncer. J'ai pas su, parce que c'est juste avant que je parte.
Donc, c'est le pasteur qui vous voit, mais pas la police?
Non, pas vraiment. Non. Des fois, la police aussi, mais ouais.
Il y a une police?
Oui, il y a une police. Enfin, voilà. Donc, je parle.
Non, mais c'est bien.
Donc, c'était certainement un peu frustrant quelquefois, parce que pour arriver à être sûr que les choses se mettent en place, d'un côté, c'est toujours le problème des bénévoles quand on fait du développement, c'est notre efficacité. Ça, il faut le mettre de côté dans sa poche.
Et s'adapter au rythme,
etc. Mais
en 6 mois, tu as le sentiment que tu as changé quelque chose ou...
Alors, ils sont convaincus que oui, en effet, j'ai changé quelque chose. Oui, les chambres sont très propres. Le nettoyage, c'est impeccable.
c'est déjà ça.
C'est là qu'on ira loger quand on est dans ce salon.
J'espère que ça va continuer. Et puis, je pense que c'est... Et donc là, il y a une autre mission qui est en ligne, si quelqu'un est intéressé, de 2 ans, mais à travailler pas avec une organisation privée, mais avec justement le conseiller touristique de l'île, qui est vraiment très 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 sympa et très capable. Et donc on espère qu'on va pouvoir envoyer un autre volontaire, mais un bénévole, mais pour 2 ans, pour travailler avec toutes les communautés, faire du travail un peu plus global avec tout le monde. Une autre chose que j'ai organisée aussi, c'est parce que bon, le guide, il emmène des gens faire des randonnées, etc. Et ils n'ont aucune formation de first aid, premier secours. Donc c'était important. Donc j'ai finalement réussi à trouver quelqu'un de la Croix-Rouge locale qui a pu faire une formation pour une vingtaine de personnes. Et ça, ça a été, je ne me rendais pas compte à quel point ça, ça a été quelque chose d'absolument fantastique, parce que Alors ça, c'était, ça, je dois dire que VSA a financé ce projet particulier, parce qu'il fallait payer les formateurs. Donc c'était un truc particulier, mais qui a eu des tas de ramifications.
C'est de l'argent bien employé.
Ouais, hein, parce que non seulement les gens étaient formés aux premiers soins, mais en plus c'était utile, bon, dans leur travail, mais aussi dans les villages, etc. Et donc une espèce de espérant de comment dirais-je, awareness de aidez-moi.
Mais ils ont parce que c'est bien de savoir quoi faire, mais parfois il faut des pansements, il faut des.
Oui, alors ben justement, mais justement cette formation était adaptée aux situations, donc on prend des vieux fiches chiffons, okay. On n'a pas toujours
donc
des.
C'est, donc c'est first aid avec les moyens du bord.
Avec les moyens avec du bord, et puis l'hôpital, donc, et ça, hélas, le guide, bon, on l'a équipé, on a essayé de trouver des pansements, des choses comme ça, donc on l'a équipé. Équipé pour qu'il ait une trousse de secours correcte, quoi.
Ouais. Et au niveau du système scolaire, ça se passe comment?
Alors, système scolaire, c'est ça qui est catastrophique dans tous ces pays en voie de développement. L'école n'est pas gratuite. Ça me rend absolument malade. Donc, le problème de l'éducation, c'est énorme, parce que chaque personne a sa langue maternelle traditionnelle. Il y avait à peu près 7 langues différentes sur Malaita. Tout le monde baragouine plus ou moins le pidgin, mais tout est enseigné en anglais.
En vrai,
l'enseignement, les choses sont en anglais, mais c'est souvent l'institut parlant pidgin. Donc, l'efficacité de l'enseignement, c'est assez difficile.
Donc, l'école est obligatoire,
hein? Ben, l'école est.
Donc, attends, ils enseignent l'anglais, donc ils enseignent par exemple la grammaire anglaise, mais en pidgin.
Pas toujours, mais souvent c'est trop difficile pour. Non, de toute façon, ils n'enseignent pas la grammaire, parce que même en Nouvelle-Zélande, personne n'enseigne la grammaire.
C'est vrai, pardon, donc, excusez-moi, j'ai oublié.
L'addition.
En maths, bon, tous les textes, etc., sont en anglais, mais souvent les instits, pour que les gamins comprennent, ils le font en pidgin, qui est quand même un peu l'anglais aménagé, oui, quand même. Oui.
Et donc, les enfants doivent aller à l'école ou c'est selon
C'est obligatoire, oui et non, si on peut payer les frais de scolarité. Alors, pour l'école primaire, c'est pas trop cher, mais il y a quand même l'uniforme, il y a le sac, tout ça, quoi. Donc,
Et il n'y a pas d'université, j'imagine.
Il y a une université à Honiara, oui. Et alors, le problème, c'est que pour aller à l'université, autrement, il y a une université, ce qui est plutôt un IUT. Et donc, là, si on veut faire des études plus supérieures, il faut espérer avoir une scholarship. C'est pas vraiment une bourse. Enfin, c'est une sorte
une
de bourse.
Ouais.
Oui. Mais c'est un peu un cercle vicieux, parce que c'est seulement les gens qui ont les moyens de parler anglais correctement qui arriveront à finir les études au lycée avec succès et qui pourront prétendre à ces bourses. Parce que c'est une bourse, pas sur les raisons financières, mais pour le succès académique. Donc.
Ouais, c'est difficile de.
Donc
du coup, ils vont à l'université aussi, à l'université du Pacifique Sud.
Oui, ils vont beaucoup à Fidji, ou alors en PNG, en Papouas-Nouvelle-Guinée, et quelques-uns viennent en Nouvelle-Zélande aussi, en Australie.
On a des étudiants. Donc, j'en connais un.
C'est le gouvernement, c'est une république ou
C'est comme en Nouvelle-Zélande, c'est une démocratie, comme ici, quoi, avec un représentant de la reine.
C'est le Commonwealth.
C'est le Commonwealth.
Toutes les tribus sont représentées ou il y a une tribu.
Alors, c'est compliqué parce qu'ils ont le système démocratique, mais ils ont quand même les principes, les croyants, enfin, les appartenances
tribales.
Ouais. Et donc, c'est assez difficile et chaque île, chaque région a son représentant. Mais souvent, c'est pas. Il y a vraiment beaucoup d'instabilité politique, oui.
Ah oui.
Et la population, oui. Et la population est assez désabusée par rapport à ça, ouais. Ouais.
Oui, le système politique, il est juste à Honiara sur l'île principale ou on sent sa présence dans les autres
îles? Chaque île, par exemple, l'île de Malaita, c'est une province et il y a donc toute une administration provinciale, régionale, avec un premier, avec un secrétaire, avec des gens pour chaque service qui représentent le gouvernement.
Donc la première ressource économique du pays, c'est quoi?
C'est les donations de l'extérieur, mais c'est aussi la pêche. Il y a la pêche, mais alors là aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont là aux portes des îles Solomon pour les poissons.
Et ils vendent leurs poissons ou ils pêchent pour survivre?
Ils pêchent pour survivre, mais aussi les poissons sont aussi, j'imagine, quand même, ça fait partie aussi de l'économie. Et puis le bois, malheureusement, la déforestation, ça c'est un gros problème, parce que c'est mieux que rien, mais ça abîme complètement le
paysage.
Pas sans le paysage, mais les terres.
L'écosystème, j'imagine que du coup, il y a de l'érosion.
Oui, l'érosion est terrible. Et puis ils veulent développer le tourisme, oui. Mais bon, alors là, il y a surtout sur une des îles, à Guizhou, il y a la plongée sous-marine qui est fantastique, donc ça c'est très développé là, mais le reste des îles c'est encore à l'état de développement très de base. Mmh. Voilà.
Mais si on débarque là, il y a moyen de faire quelque chose en tant que touriste ou c'est vraiment
oui absolument.
C'est pas dangereux.
C'est plus trop dangereux, non.
C'est plus trop dangereux.
Pourquoi tu dis ça?
Non, parce qu'il y a beaucoup de...
Il y a du vol, par exemple?
Oui, il y a beaucoup de vols, oui.
Mais les touristes
sont... Tu vas voir le pasteur.
Les touristes sont ciblés?
Et le pasteur, il prie, et puis
les touristes sont ciblés, oui ou non. Je crois qu'il vaut mieux ne pas montrer ses caméras et son matériel, etc. Mais bon...
Bah c'est comme quand tu voyages dans un pays en voie de développement, il vaut mieux faut pas arriver en Rolls Royce. Même un appareil photo, en fait, c'est un an de salaire. Quoi.
Ben
c'est
oui. Ce qu'il faut se dire. Ben oui, absolument, oui.
Ou plus.
Mais magnifique, les gens sont très gentils, très accueillants. Il y a des tas de possibilités, mais même chose si on développe trop le tourisme, qu'est-ce que ça va donner?
Parce
que
il faut tourisme, trouver des gens raisonnables. Il faut trouver le juste milieu, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc c'est surtout de l'écotourisme bien géré, quoi. Beaucoup à faire.
Mais ça donne envie de partir. Enfin, c'est une association, ça me donne vraiment envie de partir.
Alors, en ce moment, je fais appel là, pour nos auditeurs. Il y a par exemple, justement sur l'île de Guizhou, là où il y a tout un centre de plongée sous-marine, ils cherchent quelqu'un qui pourrait faire du yoga, qui soit prof de yoga et qui puisse former les gens à faire le yoga. Donc, ça, c'est pas mal. Assez chouette.
Ils cherchent pour combien de temps?
Je crois que c'est un an, quelque chose comme ça, ouais.
Il faut d'abord apprendre le yoga, en fait.
Ouais, non, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai trois enfants.
VSE.org.nz.
Et VSE, c'est pour volontariat?
Volontaire Service Abroad.
Ah, d'accord.
Ouais. Et il y a aussi, alors sur l'île de Malaita.
Ils font des réunions d'infos, au moins une fois par an.
Ouais, non, il n'y en a plus beaucoup en ce moment, mais tout est sur le site. Donc on peut mettre aussi
sur Facebook. On mettra sur Facebook. J'allais dire blog, mais non. C'est déjà sur Facebook, en fait.
Ouais, sur Twitter.
Et sur Twitter et sur Instagram, nous sommes.
On va mettre la musique.
Ouais, voilà. Bon, alors j'ai beaucoup parlé, excusez-moi.
Ah, ça sera bien. La musique, ce sera Famille Heureuse.
Ah, bah voilà.
Les Négresses Vertes.
Ah, ah, jamine avec sa sœurine. Tu chopes de la poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants assis au fond de la classe? Ils sont d'une tripotée, le même nom, la même face. On pousse le doigt dans le nez des jumeaux détruits et même échauffés. Ce n'est plus qu'une famille. Voilà une famille.
Les la famille heureuse. Alors ça c'est le dommage de la radio. Oh, le côté, c'est que pendant que vous écoutiez de la musique, nous on a eu droit à toutes les photos d'Elisabeth. Et ça donne envie, hein. Non,
Ah oui, non, c'est magnifique. Je veux dire, si on veut vraiment un petit peu d'aventure, c'est certainement.
Humainement, oui, effectivement, c'est quelque chose de très fort. Bon, la nourriture, ça dépend.
Bon, c'est du poisson. On va au marché, on trouve des thons, des grands thons pour trois fois rien.
Donc, c'était
les meilleurs ananas au monde.
Tu as perdu du poids là-bas?
Oui, j'ai perdu 9 kilos. C'était très bien.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, ça c'est un
d'autres avantages. On fait comment pour aller? Donc, t'es contente de ton...
Ouais, un peu frustrant, mais quand même, quand même une expérience assez unique, ouais. Bon, maintenant, est-ce que j'ai vraiment beaucoup apporté quelque chose?
Tu as apporté.
Tu gardais parce que tu t'as dit que tu avais été en Afrique du Sud. T'as eu des contacts par après avec les gens?
Oui, je suis restée en contact avec eux. Je suis toujours en contact avec un des guides. Oui.
Et donc là, tu vas garder des contacts?
Oui, là, je suis en contact, mais là, c'est beaucoup plus difficile parce que y a pas beaucoup d'électricité, juste du solaire. Donc, par exemple, Silas, le guide, je fais encore du mentoring à distance, mais. Je lui ai organisé sa brochure, etc. Mais bon, c'est difficile parce qu'il n'a pas l'électricité chez lui. Il a juste un petit peu le solaire. Donc, il n'y a pas assez de pouvoir pour recharger son téléphone. C'est un vieux téléphone un peu bancal. Donc, il faut qu'il aille en ville et qu'il charge son téléphone. Et puis, pour regarder ses emails. Donc, tout ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais.
Je devrais envoyer mes enfants, je pense. Un mois sans Internet.
Sincèrement, je pense qu'après le bac, tout le monde devrait partir faire de...
Alors, la possibilité... Oui, mais la même chose, oui et non.
Mais parce encadré,
Si on n'est pas formé...
Il ne faut pas que ce soit un camp non plus.
Alors, il y a la possibilité pour la plupart des étudiants des universités qui ont étudié la géographie ou le développement, donc d'abord Otago, Auckland... Wellington, je crois peut-être Massy. Il y a généralement chaque année une douzaine ou une quinzaine d'étudiants qui sont sélectionnés qui peuvent partir un an avec VSA. Donc ça, c'est une expérience bien. Mais il faut quand même un certain minimum de compétences parce que c'est pas juste partir et essayer. Non. Si on arrive et qu'on veut imposer ses valeurs et sa façon de faire, c'est pas comme ça s'y prendre. Hein. C'est ça le problème du
quand
développement.
Quand j'avais été à la soirée d'info, il y en avait une, elle n'avait pas fait développement, mais elle avait par contre fait... Peut-être qu'elle avait, mais c'est celle qui s'était occupée des poubelles et du compost. C'était une étudiante aussi. Ça faisait partie de son mémoire de faire l'étude ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle était partie 6 mois et elle avait mis en place tout un système de compostage et de
recyclage. C'est ça, c'est-à-dire que
de recyclage. Mais donc, elle avait des compétences. En fait, il te demande vraiment. Oui. Ça, c'est ça.
Il te demande certaines compétences. Voilà.
Et c'est vraiment en fonction de tes compétences. Mais c'est vrai que après quelques années d'études, on en a quelquefois un peu.
Bien sûr, absolument.
Donc voilà.
Ouais, ce qui est fascinant, c'est que dans ces pays, on peut faire beaucoup avec peu de moyens.
Oui, c'est sûr.
On a envie de refaire le monde, en fait, après. Parce qu'on voit le gâchis qu'on peut avoir ici, qui serait tellement utile à ces gens-là. Et moi, quand j'avais été en Inde, j'avais eu du mal après à accepter de retourner à Paris et de voir tous les excès. Sachant que les gens étaient...
Et c'est ça qui est difficile quand on revient d'une mission comme ça, c'est retour à la normalité,
Ça prend du temps.
Ça prend un petit peu de temps,
ouais. Il faut se réadapter.
Oui. Ouais.
Voilà, donc avis aux amateurs, allez voir sur le site.
Oui, il y a des tas de...
Il suffit d'attendre, regarder régulièrement,
oui,
parce qu'il y a des missions
qui
arrivent
avec...
Oui, mais
si les gens sont intéressés, qu'ils envoient leur CV, parce que souvent il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans certaines îles du Pacifique, qui ne sont pas encore, et puis quand les choses arrivent au bureau à Wellington, ben, ils savent, il y a cette personne qui peut faire ça, donc.
Et donc la seule condition, c'est de résider en Nouvelle-Zélande. Ouais, il ne faut pas spécialement être néo-zélandais, mais il faut partir...
Résident. Ouais. Non, il faut être résident.
Résident, oui.
Résident permanent ou néo-zélandais. Oui.
Donc, avis à tous les professeurs de yoga,
ça? Oui. ça peut être super sympa. En plus, si c'est à Guizhou, c'est quand même c'est un peu moins le bout du monde et ça peut être sympa, surtout si on aime la plongée. Hein.
Ouais. Ah ouais. Ben voilà. On va se réécouter encore une petite musique avant de conclure. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
On écoute Speed de Zazie.
Sélectionné par Else.
Oui, ça vient de sortir, c'est tout nouveau.
J'adore
ça, si. Ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher.
C'est un tout nouvel album de Zazie qui est sorti et ça fait un peu penser à la valse à mille temps de Jacques Brel, hein, où La musique va de plus en plus vite, ouais.
J'avoue que moi, j'ai rien écouté de la musique parce que j'étais passionnée par les histoires d'Elisabeth, qui a continué à nous raconter des choses pendant que vous ne pouviez pas écouter. Alors,
en fait, on va prévoir les trois prochaines émissions.
Elisabeth, alors t'es recrutée. Tu vas venir toutes les semaines nous raconter un petit bout de ton épisode aussi.
Parce qu'on est parti dans un autre univers.
Dans un autre univers,
t'as vécu des expériences, ton expédition à aller voir les dauphins. Là.
Ah oui, là, ça c'est un autre type assez sympa, Michael Carr, qui est un très bon artiste, un artisan aussi, et qui m'a dit, il faut absolument que tu viennes voir dans notre village, tous les sites, notre village, c'est nous qui avons il y en a beaucoup dans certaines îles, mais là particulièrement, où ils appelaient les dauphins, donc Dolphin Whisperer. Donc,
et comment ils les appellent?
Alors il y a toute une histoire, alors j'ai visité tous les sites, des endroits absolument magnifiques, là, les photos de mer transparente, j'aurais bien voulu me plonger là-dedans, mais j'avais pas le temps. Alors il y a tout un cérémonial, ils ont des pirogues particulières, c'est les hommes qui les appellent, ils les ramènent vers une baie, et puis dans le temps ils en ramenaient des centaines, paraît-il, j'en ai pas vu un seul, mais des centaines, et ils nagent avec eux, et après ils les tuent, enfin pour les manger, hein, parce que c'était ça leur façon de se nourrir, et puis tous les villages avaient droit à un morceau, donc c'était bien réparti quand même. Mais depuis quelques années, en principe, il ne tue plus les dauphins.
Donc tu n'as pas vu l'appel des dauphins?
Non, j'ai vu les sites, parce que tout vient d'une femme qui avait été bannie des îles de Polynésie et qui est arrivée là sur un rocher. Donc j'ai vu le rocher où c'est la première qui a appelé le dauphin, etc. Et après j'ai vu tous les autres sites tabous.
Mais t'as vu des dauphins?
Non, j'ai pas vu un seul dauphin, non. J'en ai vu plus en Nouvelle-Zélande.
Ils doivent se méfier.
Là aussi c'était une journée absolument exceptionnelle, quoi. Enfin, où j'ai vu des choses, et alors je suis restée, après il s'est mis à pleuvoir, et puis on attendait, Michael repartait en pirogue pour aller à une cérémonie d'intronisation d'un pasteur ou d'un priest, je ne sais plus trop quoi, et donc il fallait, alors pour arriver chez eux, on arrive dans une crique avec la pirogue, et puis il faut grimper sur les rochers pour arriver dans le village, et après là il fallait qu'il redescende avec un cochon sauvage assez grand qui était encore en vie, accroché, et il fallait descendre sous la pluie battante, le cochon, toutes les vieilles dames qui allaient par terre, c'était une expédition, il y avait un film à faire, c'était assez fantastique.
Et mettre le cochon sur la pirogue.
Oui.
Vivant.
Oui, mais puis, accroché quand même.
Merci.
Mais c'était assez impressionnant parce que franchement, c'était pas très facile d'accès, quoi. Donc,
c'était le repas.
Ah ben c'est un sacrifice. Hein.
Oui, mais les cochons sentent quand.
Oui.
Il paraît d'ailleurs que la viande est moins bonne quand ils sentent.
Ils sont stressés.
Enfin voilà. Donc j'ai vu des choses assez. Et puis, toujours, les gens, le temps, sont gentils, sont accueillants.
Et t'as eu, je sais pas, on parle souvent des tempêtes tropicales, tout ça. T'as eu ça quand t'étais là?
Il y a beaucoup, assez déréglé quand même, le climat aussi là-bas. Pas mal de villages sont submergés par les eaux, hein, complètement, donc c'est un gros problème de...
Donc à marée haute, plein d'eau. Mais tout le temps ou une fois de temps en temps?
Donc l'eau, on voit que l'eau a monté là.
Oui, il y a certains villages qui sont complètement anéantis.
Et les gens sont partis où alors?
Les gens sont partis plus haut, plus loin.
Est-ce qu'il y a
ailleurs.
Des ouragans ou des...
Oui, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre.
Il n'y a rien eu de majeur quand tu étais là?
Non, il n'y a rien de majeur. Il y a eu de gros orages fin janvier. Donc là, j'avais prévu d'aller dans un autre village et je n'ai pas pu faire une expédition. Parce qu'on a mis en place une traversée de l'île d'ouest en est avec ça, hélas. Mais lui, il l'a fait souvent, mais moi, j'ai pas pu la faire parce qu'il faisait toujours très mauvais. Donc, le camion partait pas pour aller. Mmh. Là, c'était 14 km en 2 heures.
Oh, c'est encore plus lentement, ça.
D'habitude,
tu faisais moins 15 km/h.
14 km, on va aller
à pied.
Voilà, donc là il y a eu des grosses pluies.
Ils n'ont pas des ânes ou quelque chose comme ça?
Non,
des chevaux.
Non, il n'y a pas de chevaux.
Un cheval sur des trucs qui il faut un âne.
Bah, ouais. Et en Équateur, ouais, les chevaux qui grimpaient dans la montagne.
T'as pas eu de problème de moustiques?
Si, si. Alors, les fourmis rouges, oui, si. Alors,
ah, les fourmis rouges?
Là, alors, ça mange les tissus, gratter. Ça. Faut pas gratter, parce que je me suis gratté. Alors là, ça se fait, c'est infernal. Hein. Il y a rien qui soigne, il y a rien qui calme. Ouais, c'est très, très difficile, mais bon. Et puis là, il y a la malaria, bien sûr. Donc, j'ai pris 7 mois de doxycycline. Donc, ça se coule un petit peu.
Ouais. Mais t'as pas.
Non, j'ai rien chopé. Non. Mais c'est vrai que la santé, là-bas aussi, les gens meurent très jeunes. Les femmes enceintes perdent leur bébé quand même beaucoup. Il y a quand même énormément de problèmes. Mais bon, tout ça, c'est en train de s'améliorer quand même. Mais c'est...
Ça va, il y a encore du travail, quoi.
Ah ben oui.
Et est-ce que tu as assisté à des fêtes traditionnelles importantes?
Non. Pas,
l'équivalent de Noël pour nous
Non, pas vraiment. Mais non. Mais j'ai, par exemple, quand j'étais dans le village, dans le nord, là, j'ai eu tout un accueil traditionnel. C'était vraiment comme un festival juste pour moi pendant 2 jours.
Waouh. Ouais. C'est vrai que quand on a.
T'étais un peu la reine de Salomon.
Ah, j'étais totalement ça, oui.
Quand on a l'expérience d'une ville où on est anonyme, comme à Paris.
Ouais.
Et là, on se retrouve.
Ah, ben oui, ça, c'est
là,
ça.
Là, t'étais la blanche de service qui se baladait.
Quelque chose. Des journées, exotique. Des fois c'était assez difficile, etc. Mais en fin de journée, je partais au marché. Alors là, ça prenait un temps fou parce que tout le monde s'arrête, tout le monde te parle. Donc ça, c'était vraiment la thérapie de la journée, quoi. C'était formidable. Ça, c'était les gens.
T'es pas seule,
ouais.
Ben voilà, tu nous as fait rêver, je crois.
Il nous reste 1 minute 30 pour parler des autres sujets.
Non, mais je pense que les autres sujets vont se faire recycler pour la prochaine fois.
Ouais.
De toute façon, la semaine prochaine, c'est toi qui reviens, non?
Peut-être pas, non.
Et n'oubliez pas donc le petit-déj la semaine prochaine.
Ah ouais,
samedi prochain.
Mais tu viendras nous dire bonjour, viens avec tes petits enfants, il y aura des livres.
Oui, tu peux répéter les détails, l'heure, l'adresse, tout ça.
À partir de 10h à Grey Street, à l'Alliance Française, venez nombreux, il y aura à manger, il y aura sûrement des spéculoos faits par Anatole, des livres en français pour tous les âges, plein de choses, un quiz. Et je pense que Romain va nous faire des gaufres. Romain, maintenant, c'est que peut-être, comme on dit chez nous.
C'est pas nous qui faisons les gaufres?
Non, Romain a dit qu'il voulait bien les faire pour une fois.
Bon, alors on n'ira rien pour
une fois. Victor peut faire des crêpes.
Les gaufres de Romain, je dois dire.
Ouais.
Voilà.
Victor peut faire des crêpes, non?
Voilà. On va poster tout plein d'infos sur Facebook, Instagram, Twitter et tout.
Et je rappelle que VSC recrute de 18 ans à 72 ans. Donc, il y a pour tous les âges et toutes les compétences techniques.
Ouais, et j'ai d'ailleurs lié notre poste à leur poste.
Merci.
Voilà. Oui, il tente de dire au revoir. Là.
Voilà, au revoir, à la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de regarder qui sera là la semaine prochaine. Mais voilà. Au revoir, Elisabeth. Merci,
au revoir.
Merci
Elisabeth.
Ouais.
Au revoir.